Alors nous souhaitons officiellement la bienvenue au Chariot Blanc et à l'énergie de Michael.
Bienvenue à vous-même, directeur.
Il y a un thème ce soir qui est l'amour inconditionnel en relation avec le détachement et le pardon. Est-ce que vous avez un commentaire d'ouverture à faire à ce sujet?
D'abord, nous dirons bienvenue à l'Assemblée. Et nous vous dirons que nous sommes heureux que vous soyez ici ce soir. Bien sûr, nous avons un commentaire. Il sera le suivant. Un jour, il y avait un jeune homme de grande intelligence et de grand talent. Son père l'aimait beaucoup. Son père l'avait protégé lorsqu'il était petit. Et ensuite, il était devenu son maître. Il lui avait enseigné la liberté, l'autonomie. Il l'avait toujours couvert de tendresse et d'amour. Un jour, il lui dit, « J'ai un cadeau pour toi, et ensuite tu pourras partir. » Alors il partit, il alla dans une armoire, et il revint portant dans ses mains une forme de calice de cristal dans lequel il y avait une pierre. Il dit à son fils, « Je te remets cette coupe avec à l'intérieur une pierre très précieuse. Tu vas mettre ceci dans ton baluchon avec le pain, la nourriture, quelques volumes, et ensuite tu partiras expérimenter sur les chemins de l'univers. Un jour, tu retrouveras cette coupe. Et lorsque tu la verras, la vision te rappellera vers moi. Et tu sauras que tu dois revenir et que je t'attends. » Le fils ne comprit pas le langage un peu hermétique de son père. Mais il mit la coupe dans son baluchon. Et il était très fier de partir enfin pour l'expérimentation. Il s'en alla dans la ville. Il devint un comédien. Il joua plusieurs rôles. Il fit beaucoup d'argent. Tellement d'argent qu'un jour on lui proposa d'acheter une compagnie très importante, ce qu'il fit. Alors il devint le directeur de cette compagnie. Partout en haut lieu, son nom était connu. Il avait de grandes richesses, de grands pouvoirs, de grands talents, et il marchait ainsi tête haute à l'intérieur de la ville. Il pouvait facilement réunir des centaines d'amis. Les femmes l'adoraient. Il n'avait pas de fils, cependant, ni de fille. Il avait décidé de marcher son chemin et d'expérimenter. Il fit le tour de plusieurs pays. Mais un jour, il tomba malade. Il sentait qu'il vieillissait. Ses amis devenaient plus rares. Moins il avait d'argent, moins il avait d'amis. Un jour, il se réfugia sur une petite ferme qu'il avait achetée, dans une maison. Il était seul, il avait de rares visites. Il se demandait bien comment il se faisait qu'il avait perdu tous ses amis. Il était devenu presque impotent. Il avait difficulté à préparer ses repas. Et il marchait avec un état très grave, c'est-à-dire que tout était pénible pour lui. Un soir, il était assis. Et dans la profondeur de son cœur, il réfléchissait à sa vie. Et il se dit, « Je me demande pourquoi mon père m'a envoyé expérimenter, puisque c'est ceci que je vis maintenant. » Tout à coup, dans un petit coin, il aperçut le baluchon. Avec la mémoire de son père, lui revint le souvenir de cette coupe et de cette pierre précieuse qu'il avait reçue. Il se souvint aussi que son père lui avait dit, « Lorsque tu reprendras contact avec la coupe, tu reviendras me voir. » Il se dit, « Je suis bien trop vieux maintenant pour aller vers mon père. Mon père doit être décédé depuis très longtemps. J'ai été un fils sans cœur. Mais pendant une période de 7 nuits, il ne pouvait pas dormir. Toujours, il voyait l'image de son père. Alors, il se leva avec courage. Et quoique c'était pénible pour lui, il retourna vers son père. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il arriva à la maison paternelle de voir son père, qui était un vieillard de plus de 200 ans, assis sur la galerie et l'attendant. Il dit, « Père, comment se fait-il que tu es là? Tu n'es pas mort? Je ne mourrai jamais, dit le père. » Et alors le vieillard redevint un enfant, et il comprit que son père lui avait remis la pierre philosophale, et qu'ayant cette pierre philosophale, il pouvait transcender toute matière. C'est le commentaire d'ouverture que nous avons pour vous ce soir. Ce commentaire, il sera à méditer. Vous le comprendrez progressivement. Maintenant, nous voyons que vous devenez de plus en plus sérieux et vous nous donnez des thèmes plus difficiles à traiter. Vous nous parlez ce soir de l'amour inconditionnel, du détachement, du pardon. Bien sûr, tout ceci est interrelié. Mais il est difficile de parler de l'amour, car l'amour, c'est le mot le plus grand, mais c'est le mot qui a été le plus saboté par les humains. Alors, pour vous parler de l'amour, nous allons d'abord vous parler de la condition humaine. Nous allons vous parler de cette expérimentation semblable à celle du commentaire d'ouverture. Le Père, ayant créé l'humain, lui a donné l'intelligence. Il lui a donné un corps physique. Il lui a donné des émotions et des sens. Et il lui a dit, avec ses petites antennes, « Tu dois retrouver dans l'univers le Saint Graal, c'est-à-dire la coupe de cristal et la pierre philosophale. C'est ceci qui te ramènera vers moi. » Mais l'homme n'a pas exactement compris ce qui lui avait été dit par le Père. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu sur le plan terrestre et avec son intelligence, il a construit des territoires, il a construit des normes, il a construit des structures, il a construit des armes, il a construit la division. Et ensuite, il se retrouve dans cette division et il dit, « Pour moi, l'amour n'existe pas. » Ou plutôt, il cherche l'amour dans la matière. Il cherche l'amour dans l'énergie plus lourde et il est sans cesse insatisfait. Alors, nous vous dirons, la pierre philosophale, elle est dans le cœur. La pierre philosophale, elle est dans la gorge. La pierre philosophale, elle est dans le troisième œil et dans le chakra de la couronne. Et nous vous dirons depuis son long périple sur le plan terrestre, l'homme a connu ce qu'était la guerre. Il a connu ce qu'était la possession. Il a connu ce qu'était la passion. Il a connu également ce qu'est l'angoisse et la torture intérieure. Et c'est comme si progressivement, dans les temps présents, sa conscience commence à s'ouvrir. Il commence à comprendre qu'il n'a rien à faire du pouvoir, parce que le pouvoir le rend insatisfait. Qu'il n'a rien à faire de la passion, parce que la passion le rend insatisfait et lui torture le cœur. Il n'a rien à faire de la guerre, parce que la guerre le détruit lui-même et détruit la terre sur laquelle il repose. Alors nous vous dirons, l'homme commence à ouvrir sa conscience et à comprendre que ce n'est pas dans l'état matériel qu'il va trouver, nous dirions, ce que nous appellerions la perfection de la conscience, qui est une vibration très élevée. Vous savez, tout est vibration. La pierre, elle est vibration, donc elle est amour. La montagne, elle est vibration, donc elle est amour. L'arbre également, la fleur et la rivière, l'abeille et le chat, tout est amour. Mais l'humain a matérialisé l'amour. C'est comme s'il avait pris l'amour et qu'il l'avait enfermé dans une norme. Il a dit « ceci est une pierre », donc il a oublié que cette pierre était énergie. Nous vous dirons, le prophète lui dit, « lorsque tu croises la pierre sur le chemin, ne la heurte pas avec ton pied, car elle est ta sœur. » Alors nous vous dirons, l'amour, c'est de comprendre que tout est énergie, que tout est langage, que tout est Dieu, et que Dieu se manifeste à travers, bien sûr, des énergies plus lourdes. Mais il appelle l'homme au sommet de la conscience, car c'est au sommet de la conscience qu'est l'amour parfait, qu'est cet amour que vous appelez inconditionnel. L'amour inconditionnel est d'aimer autant le frère qui n'est pas de sa race, le politicien que vous trouvez un peu tortueux, d'aimer autant l'homme qui mendie dans la rue que le roi devant qui vous vous inclinez. Nous vous dirons, l'amour inconditionnel, il n'a pas de condition. Donc, il ne dit pas, celui-ci, il me revient. C'est facile d'aimer quelqu'un qui vous revient, mais ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous semble un ennemi. L'amour inconditionnel est liberté. L'amour inconditionnel est sans attache. Il conduit dans le chemin du cœur. Il conduit dans le chemin étroit. Il conduit même dans le chemin de la solitude. Il conduit, nous dirions presque, pour ne pas dire totalement, pour ne pas vous effrayer, nous dirons, il conduit presque à une forme de détachement si grand que l'humain n'est plus touché par la division dans ce sens qu'il dit que ceci est beau et que ceci est laid, que ceci est grand et que ceci est petit, que ceci est l'énergie subtile et que ceci est l'énergie lourde, car l'amour inconditionnel réunit, elle ne divise pas. Elle ne divise pas, elle ne juge pas. L'homme qui juge, se juge lui-même. Celui qui a compris l'amour inconditionnel n'a plus de frontières. Il a fait fondre ses frontières, tant et si bien que celui qui est en face de lui, lui apparaît comme lui-même. Est-ce que, lorsque vous regardez quelqu'un, vous êtes toujours capable de dire, cet homme, cette femme, cet enfant, ce cheval, ceci, c'est moi. Et le Père, c'est ceci qu'il fait. Il sait que toute la création, c'est lui-même. Alors, il habite la création. Et c'est comme s'il était habité par la création. Alors il ne peut pas juger sa création. Il ne peut pas juger celui que vous appelez méchant. Car pour le Père, rien n'est méchant. Tout est expérimentation. Le Père ne juge pas. L'amour ne juge pas. L'amour inconditionnel ne se laisse pas non plus ébranler, puisqu'elle ne se laisse pas juger, puisqu'elle n'est pas divisée. Mais elle est plutôt dans l'unité et dans la conscience. Si vous voulez utiliser des mots qui vous permettent de mieux définir l'amour, utilisez les mots d'unité et les mots conscience. Si vous voulez savoir si vous aimez, regardez combien vous êtes conscient. Êtes-vous conscient qu'en venant ici ce soir, vos pieds ont foulé le sol? Ou si vous avez oublié cette conscience? Êtes-vous conscient que vous avez respiré et que vous avez expiré? Êtes-vous conscient qu'il y a eu le chaud et le froid? De quoi étiez-vous conscient? Êtes-vous conscient de la subtilité de l'énergie qui est dans cette pièce actuellement? Êtes-vous conscient que votre présence est multipliée par mille avec tous les êtres de lumière qui remplissent cette pièce? Où est votre conscience? Est-ce que votre conscience est ici, dans le présent, dans cette énergie centrale qui vous habite, qui est énergie Dieu et qui est énergie parfaite? Alors, si vous êtes avec cette conscience, vous êtes sur le chemin de l'amour inconditionnel. Est-il nécessaire de dire que le pardon s'impose dans l'amour inconditionnel? Nous vous dirons, celui qui a atteint le degré n'a même pas besoin de pardonner puisqu'il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé si l'amour ne se laisse pas juger. Alors, il ne se sent jamais jugé. Et il ne juge jamais puisque l'amour ne juge pas. Alors, à celui qui a atteint ce degré, nous vous dirons, le pardon n'est même plus nécessaire. Nous savons que nous parlons beaucoup, mais nous savons aussi que vous avez fait circuler un petit panier avec vos intentions. Alors, nous allons vous écouter et continuer l'enseignement en répondant à vos questions.
Comme première question, c'est quelle est la première qualité pour le succès d'une relation amoureuse?
Le détachement. Ceci est surprenant, n'est-ce pas? C'est comme si tout à coup, vous voyez quelqu'un et l'attrait se fait. Et nous vous disons la première qualité, c'est le détachement. Vous savez, vous les humains, souvent lorsque vous êtes attirés par le pôle opposé, car nous croyons que vous parlez de pôle opposé lorsque vous parlez de relations amoureuses. Nous vous dirons, l'homme cherche la femme. La femme cherche l'homme éperdument. Et même nous vous dirons, dans le secret, sans toujours le dire à voix haute, lorsque vous voyez un de vos amis ou une de vos amies qui n'a pas de conjoint, vous vous posez des questions et vous vous dites, comment se fait-il qu'il n'attire pas les femmes? Comment se fait-il qu'elle n'attire pas les hommes? Et vous êtes étonné lorsque vous voyez des gens dans la solitude. Cependant, nous vous dirons que certaines personnes sont dans la solitude parce que précisément elles ont dépassé cette forme d'attrait et elles l'ont dépassé parce qu'elles ont compris que l'homme attire la femme uniquement pour comprendre la partie qui est vide à l'intérieur de lui. Nous ne dirons pas la partie non existante, puisque tous les hommes sont des femmes et que toutes les femmes sont des hommes. Si vous aviez la grande capacité de pouvoir être en contact avec vos milliers de vies antérieures, où vous avez été tantôt des hommes et tantôt des femmes, nous vous dirions, vous verriez l'attraction de façon très différente. Vous la verriez comme une possibilité ou une, nous disons bien, une possibilité de pouvoir entrer en contact avec une énergie qui vous reflète la vôtre et non point avec une énergie que vous allez posséder ou qui va vous posséder. et nous vous dirons, la possession, c'est très subtil. Le pouvoir, c'est très subtil. Alors, en réponse à votre question, quelle est la plus grande qualité lorsque vous avez l'attraction de cet amour, nous vous dirons, c'est le détachement, c'est l'autonomie, c'est de voir l'autre comme un miroir, de le voir extérieur à vous, vous reflétant une partie de vous-même, et non pas comme quelqu'un que vous allez posséder ou qui va vous posséder.
Votre question qui est, ça me fait sourire un peu, je trouve ça cute. Comment ça se vit dans votre monde, l'amour inconditionnel?
C'est très amusant. Ce soir, c'est par amour inconditionnel que nous sommes présents parmi vous. Nous savons qu'après, vous ne viendrez pas nous faire la collade. Nous serons partis. Nous savons aussi que ne nous voyant pas, vous pouvez nous imaginer comme des êtres qui se volatilisent dans l'espace et disparaissent un peu comme le vent. Alors, en acceptant d'abaisser nos vibrations, de passer à travers le canal de la forme, nous vous disons que nous utilisons l'amour inconditionnel. Nous sommes là pour vous répondre. Nous sommes là pour vous transférer notre énergie. Nous sommes là pour vous dire que nous sommes loin d'être indifférents à vos batailles, à vos douleurs, à vos souffrances, à vos angoisses, mais que nous sommes présents à votre démarche dans le désert. Comment nous vivons l'amour? Nous le vivons comme vous, dans une forme de détachement et dans une forme d'évolution. Nous sommes détachés, nous dirions, au niveau émotif, puisque nous n'avons pas, nous dirions, ces qualités que vous avez de l'émotion. Nous sommes également détachés, puisque nous n'avons pas les mêmes sens que vous. Nous ne voyons pas de la même manière que vous. Nous n'entendons pas de la même manière que vous. Nous n'avons pas les mêmes notions de temps ou d'espace. Alors, nous vous dirons, nous vivons l'amour tout simplement à notre niveau et dans notre taux d'énergie, également dans un mouvement ascensionnel vers une conscience toujours plus aiguisée, se dressant vers le retour du chemin vers le Père, car nous sommes également en chemin, en retour vers le Père. Ceci peut vous sembler très étrange, parce que déjà depuis que vous êtes des enfants, vous entendez dire que les êtres de lumière sont des anges, vous les avez même mis avec des ailes comme les oiseaux et de grandes ailes pour porter de grands corps. Et nous vous dirons, vous nous avez idéalisés, vous avez fait des statues pour nous représenter, mais nous sommes énergie, nous ne sommes pas ces formes que vous avez imaginées. Et nous sommes en mouvement, autant que la pierre est en mouvement, autant que l'arbre est en mouvement d'ascension. Celui qui est arbre, c'est-à-dire l'énergie qui est arbre présentement, dans 1000 ans, elle sera autre chose. L'énergie qui est animale présentement, dans 1000 ans, elle sera autre chose. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'animaux, mais que ceux qui seront passés par ce chemin auront transcendé cette matière animale et l'humain qui aura transcendé, c'est-à-dire qui aura retrouvé la pierre philosophale, nous vous dirons, il transcendra la matière. Il transcendra la mort, il transcendra la forme d'amour dans laquelle vous vivez présentement, puisqu'à ce moment, il sera asexué, et alors il sera à un autre niveau, et il sera dans une autre énergie. comprenez-vous?
Que pensez-vous de l'amour inconditionnel si nous avons encore de faire la difficulté?
Nous vous dirons, la pierre philosophale ne supporte aucune impureté. Ceci ne veut pas dire que vos peurs sont de mauvaises graines. Nous vous dirons, elles sont là comme un tremplin pour que vous arriviez à les dépasser, pour que vous arriviez à les transcender. Comment pourriez-vous transcender la matière si la matière n'existait pas? Comment pouvez-vous transcender la peur si vous n'êtes pas conscient de votre peur? Mais vous aurez, dans les temps à venir, ceux qui veulent franchir le passage, vous aurez à transcender l'émotion, vous aurez à transcender le corps physique et vous aurez à transcender le mental. Pour entrer dans ce chemin de l'amour, nous ne disons pas qu'entre dans le chemin de l'amour celui dont la pierre philosophale est parfaite, car vous êtes sur le chemin de l'amour. Seulement de vous poser la question, de choisir ceci comme sujet, d'être présent à cet entretien ce soir. Déjà, ceci signifie que vous êtes sur le chemin de l'amour. Vous y êtes d'ailleurs depuis toujours, puisque vous sortez du cœur du Père. Mais vous devez retourner au Père. Et pour retourner au Père, vous devez retrouver cette pierre philosophale. Et nous vous dirons, lorsque l'humain aura complètement transcendé son énergie qui est, nous l'appellerons l'énergie du plancher pelvien, et qu'il aura transcendé cette énergie, la faisant passer par la colonne vertébrale, que nous appellerons le chemin de tortue, car c'est long. Ceci prend bien des vies, nous vous dirons, avant que l'humain ait suffisamment conscience de sa totalité pour n'avoir plus besoin, nous dirons, de se compléter à l'extérieur. Mais lorsqu'il aura transcendé ceci, et que ceci sera dans le chakra de la gorge, alors l'humain pourra s'exprimer différemment. C'est que toute cette énergie qu'il utilise souvent dans l'angoisse et la souffrance et dans l'ajustement, il pourra l'utiliser dans la créativité parfaite et dans le mouvement de transcendance. Peut-être notre langage vous apparaît-il un peu éthérique, mais nous vous dirons qu'il vient le temps où vous aurez à dépasser la mesure ancienne. Il y a longtemps que vous marchez sur le plan terrestre, prisonnier de la matière. Et maintenant, l'appel de la conscience est si grand. Nous vous dirons que vous ne pourrez pas y échapper. Est-ce que ceci répond à votre question, chère dame?
La question était posée par la dame suite à une question qui a été écrite par le public. Est-ce qu'il y a des commentaires suite à cette question-là, que des gens voudraient avoir des éclaircissements ou des poser des questions? Possible d'envoyer le micro là-bas?
Je voudrais savoir pourquoi c'est si long quand vous parlez
Le chemin le plus rapide est le chemin de la tortue. Car nous vous dirons, la tortue, elle ne recule pas. Elle avance toujours. Elle avance d'un pied sûr. Elle est toujours protégée. La tortue, elle a la capacité de vivre sur le sol. Elle a la capacité de vivre dans l'eau. Elle a même la capacité d'avoir des ailes. Mais nous vous dirons, la tortue doit respecter son état de tortue. Le petit lièvre, lui, il court, il va ici et là, il frappe les micros, il court partout dans la forêt. Et nous vous dirons que ce petit lièvre, il est retardataire, il veut aller trop vite. Nous vous dirons, dans les temps qui viennent, vous n'aurez pas le choix d'aller vite. Ne le sentez-vous pas? Ne le sentez-vous pas profondément que vous ne pouvez plus rester attaché avec ces boulets de la matière? Ne sentez-vous pas que ceci devient lourd, que toutes les structures, que ce soit les structures physiques, que ce soit les structures sociales, que ce soit les structures de la science, que ce soit les structures religieuses, ne sentez-vous pas que tout ceci est ébranlé? Alors vous n'aurez pas le choix d'aller rapidement. C'est comme si la tortue que vous êtes commence à apprendre à aller plus vite. Elle approche de la mer, cosmique. Et elle sait qu'elle est beaucoup plus rapide dans cette mer que sur Terre, que dans l'énergie plus lourde. Avez-vous d'autres questions?
Autre question qui peut toucher plusieurs personnes ici. Ai-je la possibilité d'une vie affective heureuse?
Si vous vous aimez, bien sûr. Il n'y a pas d'autre critère. Aucun autre critère. Si vous attendez pour être en équilibre dans votre vie affective, d'avoir été aimé par votre mère, par votre père, par vos frères, par vos sœurs, par vos grands-parents, par vos amis, par un conjoint, par des enfants, tant que vous attendez que ceci vienne de l'extérieur, nous vous dirons, vous risquez de ne pas trouver équilibre parfait dans votre vie affective. Votre vie affective, elle sera en équilibre parfait lorsque vous vous aimerez de façon parfaite. Lorsque vous vous accepterez de façon parfaite. Vous savez, les dames, elles se mettent belles, elles se maquillent, elles se posent les bijoux. Elles vont chez l'esthéticienne sous prétexte que c'est la santé de la peau, mais c'est également la santé de la beauté pour que ceci puisse attirer. Est-ce que nous nous trompons? Et l'homme, lui, avec sa belle voiture, souvent avec sa cravate et son habit, nous taquinons, directeur. Ceci est amusant. Avec sa tenue extérieure parfaite, avec sa galance, avec son pouvoir, avec le pouvoir de sa parole, il essaie de convaincre la femme, n'est-ce pas? Et tous ces jeux que vous jouez avec l'autre et en face de l'autre pour attirer l'autre, au fond, c'est le jeu que vous devriez jouer avec vous-même pour vous attirer vers vous-même. Et regardez bien les gens qui ont les grands chagrins d'amour. Vous connaissez des gens qui ont eu des chagrins d'amour? Ne répondez pas au cas où les gens penseraient que c'est vous. Mais vous connaissez les gens qui ont eu les chagrins d'amour parce qu'ils se disent, si l'autre me quitte, c'est donc parce que je ne suis pas assez belle, parce que je ne suis pas assez riche, parce que je ne suis pas assez intelligente, parce que je ne suis pas assez jeune, et ainsi de suite. Et alors, vous prenez le départ de l'autre comme un jugement sur vous-même. Ne répondez pas à la question si nous vous disons, est-ce que ceci est vrai, au cas où les autres penseraient que vous êtes passé par ces gammes d'émotions. Ne vous trahissez pas, gardez votre masque, ceci est bien, nous pouvons jouer le jeu, mais vous savez bien que ceci existe Et si ceci existe, c'est parce que votre équilibre affectif, vous le faites reposer sur l'autre, sur l'affection que l'autre va vous donner, sur la compréhension que l'autre va vous donner. Mais celui qui a trouvé l'équilibre à l'intérieur de lui, bien sûr, il trouvera devant lui le maître qui a également trouvé cet équilibre. Et alors, il n'y aura pas d'attente, il n'y aura pas d'attache, il y aura un grand lien au niveau du cœur. Et ce lien, ce sera un lien élastique, de sorte que les personnes pourront être à distance sans jamais être privées de la présence de l'autre. Comprenez-vous ceci? Alors, chère dame, nous croyons que c'est une dame qui a posé la question. Nous vous dirons, si vous voulez cette stabilité affective, créez-la à l'intérieur de vous et vous allez avoir 1000 partenaires. Car nous vous dirons, l'équilibre, la paix dans une âme, ça se reconnaît, n'est-ce pas? Ne répondez pas. Gardez ceci dans votre lieu secret.
Est-ce que vous parlez d'avoir 1000 partenaires? Ça fait sursauter plusieurs personnes.
Nous vous dirons, celui qui est libre a tout l'humanité comme partenaire, parce que son cœur est devenu tellement grand et tellement large et tellement dépouillé de l'attente qu'il est alors dans le chemin du service. Et lorsque quelqu'un est rendu dans le chemin du service, il a des milliards de partenaires. Il a toute la terre, toute l'humanité, et il a également les anges, les archanges, les trônes, les dominations, nommez-les. Comprenez-vous que celui qui s'est libéré lui-même devient un avec l'univers? Comprenez-vous que celui qui se limite, combien il se limite à un seul partenaire qui doit lui dire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est gentil, qu'il est intelligent, qu'il couche bien, qu'il cuisine bien, qu'il fait bien le travail, qu'il passe bien la tondeuse et le reste, et il attend. L'attente et l'attente et l'attente qui crée incessamment la déception et la déception. Et bienheureux êtes-vous si vous avez été dans ces multitudes d'attentes et ces multitudes de déceptions, car nous vous dirons, c'est alors seulement qu'ayant expérimenté, vous serez attiré par la verticalité. Vous serez attiré par le haut, par le sommet. Vous serez attiré par la lumière. Vous serez attiré par la liberté. Et vous comprendrez que le non-attachement est la liberté. L'oiseau fut-il attaché par un seul fil invisible? Il ne peut pas voler. Alors nous vous dirons, que l'énergie du serpent. Le serpent, il rampe au sol, il est cousu au sol. Que l'énergie du serpent vienne rejoindre l'énergie de l'aigle, qui est l'oiseau qui va le plus haut dans le firmament, pour enfin descendre ici, dans le chakra de la créativité, avec, ayant comme symbole, nous vous dirons le dragon de feu, le dragon ailé, c'est-à-dire l'énergie qui a été transcendée et qui va chercher l'énergie du sommet pour enfin être dans la créativité. Et celui qui a trouvé cette créativité, nous vous dirons, il devient serviteur, serviteur de l'humanité. Il entre dans le chemin de cet amour inconditionnel.
une question ici qui dit quelle orientation je devrais donner à ma vie sentimentale.
Voyez-vous, nous avons déjà répondu. Comprenez-vous combien ce soir, en posant les questions, vous avez pensé à votre petit moi? Comment vous avez pensé à votre ego? Et vous voulez parler d'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, il est encore plus large que l'univers. Nous vous dirons, nous vous donnons un exemple. Tant pis si la forme est choquée. Un jour que la forme regardait une image qui avait la forme d'un calice portant la terre, elle dit au directeur, « J'ai l'impression d'être ce calice qui porte la terre. » Et le directeur de lui répondre, « C'est bien petit la terre. » Comme si l'amour inconditionnel, elle devait comprendre le cosmos tout entier. Vous êtes Dieu, pourquoi vous limitez-vous? Nous ne disons pas que l'énergie de la relation individuelle n'est pas importante. Bien au contraire, elle est importante. Nous ne disons pas « Allez vous enfermer dans le désert ». Nous ne disons pas « Montez sur la colonne » comme le faisaient des anciens, de grandes colonnes qui étaient érigées au-dessus des villes. Et ces hommes montaient sur ces colonnes pour être au-dessus du peuple. Nous ne disons pas ceci. Nous disons « Soyez dans le monde, soyez dans la relation, soyez dans l'individualité, mais en même temps, n'y soyez pas. » C'est-à-dire, soyez, et Paul de Tarse vous disait ceci, soyez du monde sans être du monde. C'est-à-dire, soyez détaché dans la relation, que la personne qui est là en face de vous ne soit pas là comme une armoire que vous ouvrez pour aller chercher le petit pain dont vous avez besoin, ou le beurre, ou quelqu'un qui vient pour vous servir et de qui vous pouvez tirer le maximum. Qu'elle soit là devant vous, gratuite et ouverte, comme un miroir, pour tout simplement vous refléter une partie de vous-même, pour vous apprendre à retourner à vous-même. Et qu'il en soit ainsi, non pas seulement du conjoint, mais de tous les partenaires et amis et gens que vous croisez chaque jour, qu'il en soit ainsi de la fleur, de l'arbre, de la rivière, du soleil, du nuage, de la maladie, que tout soit un reflet pour retourner à vous-même. Comprenez-vous?
Vous avez mentionné souvent dans d'autres séances de transe que l'autre n'est pas là pour répondre aux besoins de l'autre. C'est possible
Exactement.
D'expansionner à ce niveau-là, s'il vous plaît?
Certainement. Nous disons que l'autre n'est pas là pour répondre à vos besoins. Car si l'autre répond à vos besoins, il vous handicape. Ceci est-il clair? Imaginez une mère qui aurait un enfant et que cette mère aimerait tellement cet enfant qu'elle ne voudrait pas qu'il se blesse, elle ne voudrait pas qu'il travaille, elle ne voudrait pas qu'il soit en contact avec les autres au cas où il se ferait bousculer, au cas où il se ferait crier des noms, vous savez, comme les enfants le font, pour le surprotéger. Alors, elle le mettrait dans une pièce, elle le laisserait dans son lit, elle agrandirait le lit à mesure qu'il vieillit, elle l'empêcherait de marcher pour ne pas qu'il se heurte, pour ne pas qu'il tombe, elle le nourrirait à la cuillère pour pas qu'il ait à se déplacer, elle gagnerait les sous pour lui, elle le surprotégerait. Cet enfant serait handicapé. Bien sûr, Il ne tomberait pas en bas de l'escalier. Il ne heurterait pas sa tête. Il ne se ferait pas bousculer dans la rue. Mais il n'apprendrait pas la vie. Alors, lorsque vous attendez de l'autre qu'il réponde à vos besoins, vous vous handicapez. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas à manifester vos besoins lorsque vous les avez. Imaginez que vous n'avez pas mangé depuis une semaine. Est-ce que ceci vous arrive parfois? Vous avez été une semaine sans manger. Tout à coup, vous dites, il se peut bien que j'ai faim puisque j'ai mal à la tête. Alors, vous prenez votre porte-monnaie, vous prenez un billet de 10 dollars, vous allez chez le marchand et vous lui dites, veux-tu s'il vous plaît me donner le pain? Le marchand vous refuse le pain. Qu'allez-vous faire? Vous allez changer de marchand, n'est-ce pas? Et vous allez répondre à votre propre besoin. Dussiez-vous aller chez 10 boulangers? Parce que votre besoin de manger est si grand que vous allez faire les démarches nécessaires pour pouvoir vous procurer ce pain. Il se peut que le premier boulanger que vous croisez soit très heureux de vous vendre son pain et en retour, il recevra l'énergie monétaire. Ceci sera un échange, mais il n'est pas dans l'obligation. Alors, lorsque nous disons « l'autre n'est pas là pour répondre à votre besoin », ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas à exprimer votre besoin à l'autre. Bien au contraire, il est important que vous soyez toujours dans la vérité lorsque vous êtes dans une relation à l'autre. Alors vous exprimez votre besoin, mais il se peut que l'autre dise oui, parce que ceci correspond à son propre besoin. Il se peut qu'il vous dise non, parce que ceci ne correspond pas à son besoin. Et alors, vous ne devez pas vous sentir jugé. Vous devez tout simplement savoir que si ce besoin a besoin d'être comblé, nous nous excusons de ce double. Combler, c'est à vous de le combler. Peut-être pourrez-vous le combler autrement. Imaginez que vous demandez à quelqu'un de vous conduire au théâtre. Il refuse de le faire. Vous n'avez pas de voiture. Vous êtes obligé de rester à la maison. Peut-être comblerez-vous votre besoin autrement en appelant un ami, en écoutant une musique qui viendrait vous pacifier, en faisant une lecture. Alors, c'est ceci que nous disons. L'autre n'est pas là pour répondre à vos besoins. S'il y répond, tant mieux. Mais si vous êtes dépendant de l'autre pour vos besoins, vous vous handicapez.
Est-ce que ceci touche également l'intimité personnelle et la propre sexualité?
Certainement. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Lorsque monsieur veut coucher avec madame et que madame dit « Non, ce soir, j'ai les maux de tête. Et de plus, demain soir n'y compte pas non plus parce que demain, j'ai une conférence. Je vais écouter les White Chariots. Et après, demain n'y compte plus, c'est la fin de semaine et je vais au chalet avec un ami. Vous voyez cet homme tellement triste. » Et nous pourrions inverser, car dans la femme, il y a un homme également. Et alors, ceci peut susciter la colère ou faire penser qu'on est rejeté. Mais nous vous dirons, lorsque l'autre répond non à partir de son énergie, dites-vous bien qu'il se respecte. Est-ce que vous préférez qu'on comble vos besoins sans se respecter et que vous sentiez ce manque de respect? Ou qu'on vous respecte suffisamment pour se respecter soi-même en votre présence. Ceci est ardu, n'est-ce pas? C'est le chemin étroit.
s'il y aurait des questions.
Et vous êtes, nous allons compléter un petit peu. Vous êtes dans une société qui vous donne sans cesse cette image. Nous aurions pu parler de la sexualité pendant 2 heures. Nous y reviendrons dans un autre moment. Ce serait trop long. Et il y a des gens qui ont des questions.
Face à ce qui vient de se dire, est-ce qu'il y a quelques questions? Tout le monde, on est libre avec ça. Que si notre conjoint ne répond pas à notre besoin, on peut s'en aller vers une autre fleur. Vous êtes tous bien à l'aise avec ça?
Vous interprétez, directeur.
J'essaie de susciter.
Nous vous dirons, nous ne disons pas que vous avez à courir les fleurs partout. Directeur. Il y a un travail à faire sur vous-même. Voir comment vous êtes frustré lorsqu'on ne répond pas à vos besoins. Voir ce que vous pouvez faire avec votre énergie sexuelle si vous ne la vivez pas, nous dirons, au niveau de la génitalité. Est-ce que l'énergie sexuelle, et nous vous dirons ceci, existe depuis des siècles? Est-ce que l'énergie sexuelle doit être utilisée uniquement au niveau de la génitalité? Nous vous dirons, la tortue va rester longtemps sur la terre, si c'est ainsi que vous voyez la sexualité. Mais si cette énergie peut être montée, utilisée autrement, utilisée dans le canal, montée à l'intérieur de votre canal énergétique que nous avons appelé le petit chemin de la tortue, pour que vous puissiez utiliser cette force, car l'énergie sexuelle, elle n'est pas uniquement génitale, elle est une force immense qui est donnée à l'homme. Et cette force, vous pourriez créer des univers avec cette force. Comprenez-vous? Il y a de grands musiciens, de grands, nous les appellerons les magiciens de l'art, qui ont utilisé cette force vitale, qui l'ont utilisée pour propulser dans l'univers la beauté. Nous vous dirons, l'énergie sexuelle, elle n'est pas uniquement au niveau de la génitalité. Et bien sûr, en réponse à votre question, chère dame, il est important que vous fassiez la vérité entre vous, mais il se peut que pour l'autre, la génitalité n'ait pas le même sens, qu'elle n'est pas située au même niveau, qu'elle n'ait pas le même type de vibration, le même type d'attente. Bien sûr, plus vous ferez la vérité avec l'autre, plus vous ferez la vérité avec vous-même. Mais lorsque vous vous retrouvez seul avec cette énergie et cette force énergétique que vous appelez l'énergie de la sexualité, voyez comment vous pouvez faire autre chose avec. Vous l'avez enfermée dans la génitalité. Lorsqu'elle sera au niveau du cœur, vous comprendrez que cette énergie sexuelle, elle est ce chemin très large de l'amour inconditionnel dont nous avons parlé précédemment. Nous ne disons pas que ceux qui ont atteint la maîtrise, car nous vous dirons que si cette force vous est donnée, c'est pour que vous en acquériez la maîtrise. La maîtrise ne veut pas dire l'abstinence absolue. Ceci veut dire d'avoir la possibilité de la maîtriser. Si vous avez dans vos mains une boule de terre, vous avez cette terre du potier, vous pouvez tout simplement la garder dans cette forme brute, mais vous pouvez aussi en faire des formes extraordinaires, belles, très fragiles, très somptueuses dans leur beauté. Il en est de même de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est la même énergie que le Père a utilisée lorsqu'il a créé l'univers tout entier. Comprenez-vous? Est-ce que vous êtes découragé? Non? C'est bien. Vous êtes silencieux. Très silencieux. Si vous n'êtes pas découragé, c'est à demi-mal. Nous allons poursuivre.
Une dernière question qui est écrite ici, c'est comment reconnaître l'âme sœur?
Par l'énergie du cœur. L'âme sœur ne se reconnaît que par le cœur. Il faut alors que vous ayez transcendé l'énergie de la matière plus lourde, c'est-à-dire de l'énergie plus lourde, qui est l'énergie du corps physique, l'énergie de l'émotion, l'énergie du mental raisonneur. Il raisonne ce qu'il raisonne. Et que vous êtes établi dans la paix du cœur. Si vous voulez savoir si la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur, regardez la paix qui vous habite, autant en sa présence qu'en son absence. Et ceci vous dira que vous êtes en présence de l'âme sœur. Vous allez sentir ce courant qui passe d'un cœur à l'autre, mais qui n'est pas attaché. L'âme sœur, elle est comme dans l'énergie du 8. Vous avez vu le mouvement du 8. Il est un mouvement qui circule de l'un à l'autre, le mouvement qui donne autant que le mouvement qui reçoit. Mais en même temps, il est deux autonomies qui peuvent se séparer et qui garde toujours ce que nous avons appelé précédemment ce lien au niveau du cœur qui est élastique et qui fait que ces âmes de siècle en siècle ne se séparent pas, mais qu'elles se retrouvent sans cesse. Et c'est ça l'âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas celui ou celle qui répond à vos besoins. Ce n'est pas celui ou celle de qui vous êtes sans cesse préoccupé. Ce n'est pas celui ou celle qui vous entraîne dans la passion, dans la comparaison, dans la torture intérieure, dans l'angoisse si l'autre s'éloigne un peu. L'âme sœur, elle est là si vous êtes dans la liberté, si vous êtes dans la paix, si vous êtes dans la non-attache. Si vous êtes dans cette énergie pure, prête au service, prête au don, qui n'est pas uniquement... Vous savez, il y a un de vos sages qui est venu sur le plan terrestre. Peut-être l'avez-vous reconnu, peut-être pas. Il portait le nom d'Antoine de Saint-Exupéry. Et lorsqu'il parlait de l'amour, il disait que l'amour, ce n'était pas de se regarder l'un l'autre, mais que c'était de regarder ensemble dans la même direction. Alors nous vous dirons, les âmes sœurs, elles regardent ensemble dans la direction de l'amour parfait. Elles regardent ensemble vers le sommet de la montagne. Elles regardent ensemble dans la transparence, dans la vérité. Lorsqu'il y a âmes sœurs, il y a transparence et vérité. Comprenez-vous, il y a liberté, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de petite subtilité pour retenir l'autre, il n'y a pas ceci avec l'âme sœur, il y a la liberté. Il y a une forme de compassion qui est si grande, qu'elle se transmet par le seul regard. C'est ceci, l'âme sœur. Et vous savez, votre âme sœur, peut-être la cherchez-vous dans cette assemblée ce soir, et vous dites-vous, elle est bien jolie, de plus elle est ouverte spirituellement puisqu'elle est présente ici, ceci me correspond, je vais tenter de l'amener au restaurant, nous allons discuter de l'amour inconditionnel, et peut-être c'est mon âme sœur, car vous savez bien que vous créez tous ces scénarios, n'est-ce pas? Mais nous vous dirons peut-être votre âme sœur. Est-ce un enfant qui n'est pas né encore? Peut-être votre âme sœur est-elle dans un autre plan? Et à force de tant chercher ici comme des petites fourmis le nez collé sur le sol, oubliez-vous de regarder plus haut et de savoir que l'âme sœur, elle est dans un autre plan peut-être. Si vous voulez trouver l'âme sœur, savez-vous le meilleur moyen? Ne la cherchez pas. Elle sera là en son temps. Viendra une occasion particulière que vous n'aurez pas fixée et la personne sera là et vous vous reconnaîtrez et tout à coup se tissera ce tissu de transparence entre vous. Ne cherchez pas. Vous n'avez pas besoin de donner rendez-vous à l'âme sœur. Elle est là. C'est loin de vos calculs et de vos structures. Nous vous dirons, quelqu'un pourrait faire beaucoup d'argent. S'il y a quelqu'un ici qui désire beaucoup d'énergie monétaire, nous allons vous donner un hint. We say in English.
Un petit truc.
Un petit truc. Merci, directeur. Créer une agence matrimoniale qui s'appelle les âmes sœurs. Et à qui vous direz que vous avez le pouvoir de rassembler les âmes sœurs? Vous allez voir accourir les gens auprès de vous. Mais nous vous dirons pas, nous ne garantissons pas le succès. Cessez de jouer des jeux. Et si votre âme sœur, c'était vous-même? Ceci est un peu démoralisant si ça fait à peu près 10 ans que vous cherchez un homme ou une femme et que tout à coup, on vous retourne à vous-même. Comme c'est triste. Et pourtant, vous savez, le Saint Graal, il est à l'intérieur de vous. La pierre philosophale, elle est à l'intérieur de vous. C'est là que vous devez aller. Il est temps que vous dépassiez toutes ces petites structures, tous ces petits stratèges. Il est temps que vous dépassiez ceci et que vous soyez appelés incessamment et le jour et la nuit par la conscience. La conscience constante, c'est ce que nous vous souhaitons, la conscience constante dans le présent. Avez-vous d'autres questions? C'est décourageant d'avoir des réponses pareilles.
Oui,
vaut mieux ne pas poser de questions peut-être. D'abord, vous attachez à vous-même. Plus vous allez vous attacher à vous-même, plus vous allez vous détacher des autres. Observez bien ce qu'est un lien d'attachement. Lorsqu'une mère est attachée à son enfant, observez bien que souvent, elle est attachée, nous ne disons pas toujours, mais très souvent, elle est attachée à l'enfant parce qu'elle s'est donné cet enfant pour avoir une raison de vivre. Elle s'est donné cet enfant à l'extérieur d'elle pour dire « Bon, voici, je suis bonne. Je suis une femme. J'ai la preuve que je suis une femme. J'ai été capable d'engendrer. Je peux prouver ceci à l'univers. Et depuis, j'ai un fils. Ce fils est beau, il est intelligent, il est bon. Et si à certains jours, il n'est pas beau, n'est pas intelligent et bon, elle va s'en mêler et lui dire, « Tu ne dois pas me faire honte de cette façon. Ne vois-tu pas que tu es marginal? Pourquoi est-elle si blessée s'il est marginal? Si elle l'aime, elle va le respecter tel qu'il est. » S'il veut avoir les cheveux rouges, un pantalon avec une jambe longue et l'autre avec une jambe courte, qu'est-ce que ceci peut faire si elle aime l'essence de cet enfant? Et pourquoi a-t-elle honte s'il n'a pas les comportements sociaux comme ceci est exigé? Alors nous vous dirons, si elle a honte, c'est parce qu'elle veut cet enfant parfait pour se dire à elle qu'elle est parfaite. Alors, l'attachement, c'est de regarder l'autre en fonction de soi, au lieu de se regarder soi. Comprenez-vous? Alors, si vous voulez vous détacher, attachez-vous. Attachez-vous à vous-même. Attachez-vous au travail que vous avez à faire sur vous-même. Attachez-vous à, nous dirions, votre propre évolution. Et alors, vous n'aurez plus d'exigence face aux autres. L'autre, il sera libre de s'approcher, de s'éloigner, de vivre des expériences, et vous serez toujours bien. Lorsque vous vous attachez, souvent vous le faites également par insécurité. C'est très insécurisant d'être seul. Et nous serions curieux de savoir, tiens, directeur, nous allons vous donner un devoir. Voulez-vous faire lever la main aux gens dans cette pièce qui vous disent qu'elles adorent la solitude? Comptez les mains. Est-ce que vous avez un gros devoir? Que vous adorez la solitude?
J'en compte 14 et demi.
Alors, voyez-vous, si vous adorez la solitude, si vous êtes bien dans votre solitude et que cette solitude, vous n'en avez pas fait un mur autour de vous pour pas que les autres viennent vous incommoder, car il y a plusieurs sortes de solitude, mais que cette solitude est paix, que cette solitude est ouverture. La solitude qui est ouverture, entendez-vous ceci? Alors, si votre solitude est ouverture, vous êtes dans le chemin du détachement. Vous avez compris ce qu'est le détachement. Et alors, les gens peuvent venir auprès de vous sans que vous soyez troublés. Les gens peuvent s'éloigner de vous sans que vous soyez troublés et sans que vous ayez besoin immédiatement besoin de remplacer cette personne. Car lorsque quelqu'un est cher, lorsqu'un conjoint s'en va, par exemple, il vous arrive de remplacer rapidement le conjoint pour ne pas vivre le vide du détachement. Mais nous vous dirons, ce vide, il est plein. Il est plein de votre propre énergie. Il est plein de Dieu. Pourquoi le fuyez-vous? Habitez ce vide, remplissez-le de votre énergie, et alors il ne sera plus vide jamais. Comprenez-vous? Alors, chère dame, si vous voulez apprendre à vous détacher, apprenez à vous attacher à vous-même. Et vous attacher à vous-même ne veut pas dire construire la tour de l'égoïsme. Bien au contraire, celui qui est attaché à lui-même est tellement dépouillé qu'il peut tout donner. C'est ce que Christ a fait. il n'avait pas pierre où reposer sa tête. Il n'avait pas de tranquillité. Même un jour qu'il avait dit au sien, « Traversons de l'autre côté de la rivière, je suis fatigué, allons nous reposer un peu. » Les gens se dirent, « Nous sommes aussi fins qu'eux, nous allons traverser par un autre moyen. » Et ils firent le tour, non point de la rivière, mais du lac. Et lorsqu'il eut traversé le lac, le peuple l'attendait. Et c'est là qu'il a multiplié le pain. Il n'avait pas de pierre où reposer sa tête. Et celui qui s'est trouvé lui-même, il peut être totalement disponible parce qu'il est parfaitement libre dans son énergie. Il aura les foules auprès de lui parce qu'il est détaché. Et celui qui est attaché, il se retrouvera dans la solitude. Car quelle est la plus grande solitude? Est-ce celle de celui qui habite seul ou de celui qui habite avec quelqu'un qui ne l'aime pas ou qui ne l'écoute pas? La solitude à deux est plus terrible que toute autre solitude. N'avez-vous jamais éprouvé ce sentiment? Ne répondez pas, au cas où votre conjoint vous entendrait. Gardez le masque. Nous nous amusons avec les masques, mais nous nous amusons sans nous amuser d'une certaine façon. C'est par ces petites boutades, nous voulons vous faire réfléchir. Nous voulons vous amener à l'intérieur de vous-même. Pour aller à l'intérieur de soi-même, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le visage sérieux, les mains croisées et les yeux clos. Vous pouvez aller à vous-même, dans le rire, dans la joie, dans la paix. Et lorsque vous voyez vos masques, allez devant votre miroir, dessinez ce masque sur votre figure et riez de vous-même et dites « Je te reconnais ». Et c'est ainsi que vous vous en dépouillerez, non point par la tristesse et les larmes. Nous dirons la tristesse et les larmes sont nécessaires, la souffrance est nécessaire, la maladie même, nous dirions, est parfois nécessaire pour que l'humain ne s'endorme pas. Quand il commence à s'endormir, quand la vie devient trop facile, nous vous dirons, il est alors remué parce qu'il est en train de s'endormir. Mais celui qui s'est centré sur cette conscience constante dont nous parlions précédemment, celui-là, il n'a plus besoin d'erreurs, il n'a plus besoin d'accidents, il n'a plus besoin de maladies. Il est dans la conscience constante. Alors, il n'a pas besoin d'être éveillé. Il est éveillé jour et nuit. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous quelques réponses pour nous? Nous savons que notre enseignement peut apparaître sévère. Mais il n'est pas sévère, il est amoureux. Il peut vous apparaître sévère parce que vous ne cherchez pas ce que nous sommes en train de dire. Mais à mesure que vous allez avancer dans la lumière, à mesure que vous allez vous dépouiller, à mesure que vous allez couper les fils des attaches, à mesure que vous allez voir l'autre avec une saine distance et non point dans l'attente, nous vous dirons, vous comprendrez ce langage et vous respirerez la liberté.
Il y a une question.
D'abord, nous vous dirons que l'amour inconditionnel n'est pas toujours d'aider les autres. Parfois, l'amour inconditionnel est de ne pas aider, et ceci est beaucoup moins flatteur pour l'ego. Comprenez-vous ceci? L'amour inconditionnel, elle est davantage une présence, une oreille ouverte, un cœur ouvert, ouvert. Nous vous dirons, elle se sent l'amour inconditionnel. Parfois, elle n'a même pas besoin d'être dite. Mais parfois, vous, les humains, vous confondez un peu et ne vous jugez pas surtout de confondre. À force de confondre, vous allez finir par trouver le chemin. Si vous êtes dans une ville, il y a 100 rues. Vous voulez sortir de cette ville. Il n'y a qu'une seule rue par laquelle vous pouvez sortir de la ville. Si vous en avez expérimenté 99, vous avez une chance excellente de sortir à la prochaine, n'est-ce pas? Alors, n'ayez pas peur d'expérimenter et ne vous jugez pas dans l'expérimentation. Alors, parfois, c'est que vous voulez aider votre frère ou votre sœur à sortir d'une épreuve. Mais si vous le laissez dans l'épreuve, il sera forcé d'aller au bout de lui-même. Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre vie, mais c'est son expérimentation. Mais si vous l'empêchez, comme le petit enfant dont nous avons parlé précédemment, que sa mère surprotège pour ne pas qu'il tombe ou se blesse ou reçoive les injures, elle l'empêche d'expérimenter. Alors, lorsque vous êtes devant quelqu'un, que vous voyez que cette personne a besoin d'aide, vous pouvez vous demander à l'intérieur de vous-même, est-ce que je lui rends service? Est-ce que je fais les choses à sa place? Est-ce que je la protège? Est-ce que je la sors de son rôle de victime? Est-ce que je suis dans un rôle de sauveur? Car vous savez, il y a une épidémie de victimes. De gens qui font bien pitié. Les pitou-piteux, vous les appelez? Il y a beaucoup de pitou-piteux qui attirent les sauveurs. Mais tous les humains sont déjà sauvés. Tous les humains, sans exception. Le petit enfant du Biafra, qui n'a plus le courage de manger, qui a les mouches dans les yeux et dans la bouche. Nous vous dirons, cet enfant, il est sauvé, mais vous voyez son corps. Vous ne voyez pas son âme. Vous ne voyez pas son moi supérieur. Vous ne voyez pas sa conscience supérieure. Alors vous croyez qu'il a besoin d'être sauvé. Nous vous dirons, interrogez-vous. Demandez à vos guides si vous devez poser les gestes. Et si vous sentez que vous n'avez pas le courage d'aller auprès de cette personne, peut-être que c'est un guide qui, de façon discrète, vous retient pour que cette personne apprenne à s'aider elle-même. Comprenez-vous? Ceci est-il clair, chère dame? C'est très subtil, l'amour inconditionnel. Il y a un sage qui disait, j'ai voulu aimer d'amour inconditionnel. Alors j'ai fait un chèque de $1,000 que j'ai adressé à un de mes amis, et j'ai dit à cet ami, prends cet argent et va le porter à telle personne qui en a besoin pour nourrir ses fils et ses filles, afin qu'elle ne sache pas que c'est moi qui fais le don. Mais quelques jours plus tard, il alla trouver son ami et lui demanda, est-ce que cette femme était bien heureuse de recevoir les $1,000, et son ami de lui répondre, si ton geste est inconditionnel, pourquoi as-tu besoin de savoir? Comprenez-vous? C'est très subtil. Mais aimez-vous dans vos subtilités? Aimez-vous dans vos détours? Vous êtes sur un plan que nous appelons de là où nous sommes. Nous l'appelons le plan de l'illusion. Voyez-vous dans vos illusions? Reconnaissez-vous dans vos illusions? Et expérimentez. Et c'est au bout de cette expérimentation que vous vous souviendrez que dans votre baluchon, il y a un calice d'or. Et que dans ce calice d'or, et ce calice, nous dirons, de transparence et de cristal, il y a la pierre philosophale qui est l'énergie Dieu parfaite à l'intérieur de vous. Nous devrons bientôt quitter la forme. Nous pourrions peut-être entendre une question ou peut-être un commentaire.
Il y a une question.
Nous sommes déjà rendus. Nous vous dirons, vous savez, si vous êtes présent ici ce soir, c'est que déjà, avant même que vous ayez été présent, nous étions ici. Toute la journée, nous étions dans cette pièce. Toute la journée, nous avons été auprès du canal. Toute la journée, nous avons préparé les cœurs. Toute la journée, nous avons envoyé la cohorte des anges auprès de vous pour pouvoir, nous dirions, labourer la terre afin que les petites graines que nous venons semer par amour puissent germer. Bien sûr que dès que vous avez une pensée, que vous avez besoin d'être supporté et aidé, nous sommes présents. C'est rapide, une pensée. Est-ce que tout le monde, rapidement, peut penser à sa maison? Certainement, ceci se fait comme une éclair. Alors, nous vous dirons, dès que vous pensez que des guides ou des êtres de lumière peuvent venir à votre secours, ils sont présents. Ceci ne veut pas dire qu'ils répondent immédiatement. Car pour vous, il y a le temps. Vous savez, vous demandez à 9 heures, vous voudriez à 9 heures et une avoir une réponse. Mais pour nous, elle n'existe pas cette minute. Ce qui existe, c'est votre énergie. Et nous sommes là à injecter la lumière dans votre énergie. Et peut-être la réponse que vous nous demandez sera tellement différente. De comment vous l'aviez formulé, que vous ne reconnaîtrez pas que c'est nous qui vous donnons la réponse. Mais ce que nous savons, c'est que souvent, nous vous donnons beaucoup plus que vous nous avez demandé. Un enfant qui demanderait, un enfant qui serait affamé et qui serait sur le bord du fossé et qui verrait passer le roi et qui lui demanderait un petit crouton de pain, croyez-vous que le roi ne lui donnerait pas le banquet tout entier? Et si vous ne recevez pas le banquet tout entier, c'est à cause du doute. Car le doute, c'est un bien grand piège. Chère dame, nous sommes avec vous. Nous sommes avec toi. Nous vous aimons tellement, puissions-nous vous dire cet amour. Mais nous pouvons vous la dire pendant des heures. Il faut d'abord que les oreilles du cœur puissent entendre cet amour, l'accueillir, la laisser germer comme le blé dans le champ labouré, dans la terre qui a été remuée, dans la terre qui a vécu l'angoisse sous le socle de la charrue. Et il y en a parmi vous qui sont cette terre sacrée qui a vécu l'angoisse sous le socle de la charrue. Mais nous vous dirons, c'était la condition Il fallait que cette terre soit remuée pour que le grain sacré du blé parfait soit mis en votre sein. Que le soleil de l'énergie christique fasse germer cette semence en vos cœurs. Ne vous découragez jamais. Nous vous dirons, vous êtes sur le chemin. Vous faites partie de la grande cohorte blanche. Vous faites partie de ceux qui cheminent depuis longtemps, qui ont traversé les mers et les déserts. Vous faites partie de ceux dont la conscience est aspirée vers le haut. Nous vous dirons, nous vous voyons marcher, nous vous voyons entrer dans ce chemin de lumière, mais vous, vous êtes encore dans l'obscurité et peut-être ne le sentez-vous pas, mais nous vous dirons, vous avancez incessamment vers cette Jérusalem céleste. Ne la fixez pas dans le temps. Ne l'enfermez pas dans le temps. Il n'existe pas le temps. Il n'est là que pour vous torturer, que pour vous dire que vous êtes en retard, que pour vous faire des reproches, que pour vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre la créativité. Donnez-vous le temps. Il y en a beaucoup actuellement sur le plan terrestre des gens choisis. Mais oui, si vous le considérez de cette façon, vous êtes des êtres privilégiés. Mais celui qui a le privilège d'ouvrir sa conscience a également le devoir. Avec un privilège vient toujours un devoir, celui d'évoluer. Celui de sortir de la stagnance, celui de devenir lumière pour ses frères, celui de construire cette Jérusalem céleste, celui d'ouvrir et d'élargir cette conscience, celui de prendre la parole, celui de dire, celui de rendre public ce qui a été caché dans le secret. Et Christ vous avait dit ceci, il a dit, dans le futur sera rendu public ce qui aujourd'hui est gardé dans le secret. Et c'est vous qui avez ce devoir avec le privilège d'être, comme vous le dites, privilégié. Nous allons vous demander, vous faire deux demandes particulières. La première, ce sera de prier pour la terre-mère. La terre-mère est très douloureuse. Elle a mal en ses cellules. Elle a mal de la haine des humains. Elle a mal dans son âme. Car la mère-terre est également, nous vous dirions, une entité propre, ayant une âme, ayant des cellules, ayant des vibrations, ayant une conscience. Et c'est comme si elle vous appelait pour que vous puissiez lui donner des transferts énergétiques, comme quand vous allez dans les hôpitaux et que vous donnez des transferts sanguins à vos frères humains pour qu'ils puissent passer à travers un accident ou une maladie. Transférez l'amour à votre mère la terre. Elle tremble. Et nous vous dirons que votre mère, la terre, elle est symbolique du cœur des humains et qu'il y a beaucoup d'humains qui sont encore dans la haine, qui sont encore dans la colère, qui sont encore dans la jalousie, qui sont encore dans le chemin de la peur et qui ont besoin d'être délivrés. Et à mesure qu'un être humain se délivre de ses passions et qu'il s'élève vers l'énergie de son chakra du cœur, à mesure la terre guérit. Alors nous vous disons, envoyez cette énergie du cœur à votre mère la terre. Elle vous le rendra et elle vous aidera, nous vous dirons, à vous libérer également de ces énergies plus denses. Nous vous demandons également d'envoyer énergie et lumière aux êtres, à certains êtres qui ne sont pas dans le plan terrestre, mais qui sont entre deux plans et qui cherchent leur chemin et qui sont dans des énergies très denses, très obscures, très nébuleuses, très sombres et qui ont besoin d'être aimés, non point d'être considérés comme les énergies du mal, mais qui ont besoin de cette vaccination de l'amour sans condition. Alors nous vous dirons, envoyez de l'énergie à ces êtres, même si vous ne les voyez pas et que vous ne les connaissez pas, afin de transférer partout la lumière. Nous vous dirons, le soleil, lui, jamais il ne se pose la question s'il va ou s'il n'éclairera pas ses frères humains. Ceci est sa vocation parfaite, et nous vous dirons, il la respecte. Soyez ces soleils qui irradient partout l'amour, malgré vos erreurs, malgré vos faiblesses, malgré vos fragilités. Ne vous jugez pas, sachez que vous êtes ces soleils parfaits et irradiés partout. Irradiez l'énergie christique, mais pour pouvoir l'irradier, nourrissez-vous-en. Que lorsque vous mangez votre pain que vous avez béni chaque jour, votre fruit ou n'importe quel aliment, et que vous lui dites « Je te mange parce que tu es amour, et je deviens amour, et je libère l'énergie d'amour, et que chaque geste que vous posez, que tout soit conscience, afin que tout devienne amour, car le Père est celui qui est. Il est la conscience parfaite d'être. Devenez cette énergie. Retrouvez cette énergie à l'intérieur de vous et propulsez-la dans tous les univers. » Avant de vous quitter, nous allons vous dire combien nous vous aimons. L'amour que nous avons est d'une tendresse plus grande que la tendresse qui peut être dans le cœur d'une mère ou d'un père pour son enfant. Comprenez-vous? Nous avons reçu mission de vous aimer et nous sommes heureux d'accomplir cette mission. Que la paix, la force, la sagesse et l'amour soient avec vous pour toujours. Amen. Nous devons maintenant quitter la forme.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Seigneur, protège toutes les entités présentes, peu importe la source, et que les guides se joignent à nous afin que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Amen.
S'il vous plaît, commencez toute guérison qui s'avère nécessaire maintenant à tous les niveaux de l'être.
This is done.
S'il vous plaît, permettez à la pression sanguine et à toutes les autres fonctions du système physiologique qui ont été ralenties de revenir à la normale de manière naturelle et continue maintenant. J'aimerais que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré. Maintenant.